Et on retrouve tout de suite Mélève et Malka, une émission qui vous est présentée par Bernard Aboif.
Bonsoir à tous, Bernard Aboif au micro. On se retrouve comme chaque samedi soir pour Mélève et Malka, une grande émission de Torah et de pensée juive. Et nous sommes en ligne avec Ravéli Lemel. Rav Lemel, bonsoir et Shavuatov.
Bonsoir et Shavuatov.
Alors, on entame une nouvelle étude. C'est bienvenu d'ailleurs, puisque voilà, Shabbat se termine et on commence un nouveau chapitre. Donc là, on est dans Vayeshev. Et on y voit la fameuse jalousie des frères pour Yosef. Et alors, c'est vrai que généralement, Rav Lemel, vous nous expliquez le bon côté de ce que font nos patriarches. Mais moi, cette histoire de jalousie, j'ai jamais compris. D'où ça vient? Est-ce que, par exemple, on peut imaginer que Yaakov fait une erreur? Est-ce que c'était vraiment nécessaire de donner le fameux manteau, de montrer à tout le monde que c'est le préféré? Après, je sais pas, les commentateurs nous disent oui, mais c'était vraiment le meilleur, quoi. Ou est-ce que c'est les frères qui font une erreur? Parce que ça se termine quand même par tentative de meurtre. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en avez tiré de votre étude?
Ce qui est justement ouvrir une réflexion beaucoup plus vaste sur cet enjeu de la jalousie, parce que vous comprenez bien qu'ici, les frères ne sont pas jaloux parce que Yosef a reçu une tunique en plus. T'as reçu un plus joli pantalon ou un plus joli costume. On est quand même avec ici ce qu'on appelle
tentative de meurtre.
Les Shvatim, avec les Shvatim. Donc, évidemment, on n'est pas ici sur quelque chose de cette petite jalousie mesquine. On est sur quelque chose de beaucoup plus vaste et j'ai envie d'ouvrir sur quelque chose de plus large et pas juste m'arrêter à l'histoire de Yosef et des frères parce qu'au fond, cette idée de jalousie, on la retrouve dans la Torah quand même, de manière très très forte. C'est vrai que la première jalousie de l'histoire, c'est la jalousie du serpent. Le fameux serpent, le fameux Nahash. Nous dit le Midrash, le Nahash, il va voir Adam et Ève, et puis il va voir qu'il y a en effet entre eux une relation qui se joue dans l'intimité, et on dit qu'il est jaloux, il a envie de s'approprier cela. Alors ça veut dire quoi au fond? Qu'est-ce qui se passe? Il faut bien comprendre qu'au fond, la jalousie, c'est avant tout, non pas sur la chose en tant que telle, mais sur ce qu'elle génère. C'est-à-dire que à quoi on aspire, pas tant à la chose, mais à ce qu'elle procure. Et cette jalousie-là, au fond, elle est positive, si on réfléchit. D'ailleurs, n'oublions pas qu'il y a un texte qui nous dit « Kinat sofrim tarbe chorma », la jalousie des maîtres, des sages, développe la sagesse parce que, au fond, quand je suis jaloux de la connaissance de l'autre, quelque part, je ne peux pas la prendre puisque elle est chez lui, elle est à l'intérieur de lui. Donc ça veut dire que si je veux prendre quelque chose qui de toute façon est inatteignable, alors pourquoi j'en suis jaloux? Donc je ne suis pas jaloux de ce qu'il possède et que je ne peux pas m'approprier, ici en l'occurrence son savoir et sa connaissance, mais je suis jaloux justement de ce savoir et de cette connaissance qu'il possède et qui crée en effet beaucoup de choses positives. Et donc, quelque part, cette jalousie, elle est géniale. Parce qu'elle m'amène à me dire, mais moi aussi, je peux arriver à ça. Je peux y accéder aussi. Et donc, à partir de cela, eh bien, moi, de me mettre au travail. La jalousie du serpent, c'est quoi? C'est pas tant sur ce qui s'est joué entre Adam et Ève, c'est la suite. C'est-à-dire, au fond, qu'est-ce que ça crée? Et quand vous voyez d'ailleurs des choses dans la vie, c'est pas l'objet duquel vous êtes jaloux, mais c'est beaucoup plus ce qu'il est censé procurer chez l'autre. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle très souvent, vous constaterez que lorsque l'on a réussi à obtenir cette chose de laquelle on était jaloux, on est très déçu parce que derrière cette chose, on pensait qu'on allait vivre un sentiment de bien-être, de joie, de ce que vous voulez. Or, la plupart du temps, ça va pas du tout être au rendez-vous. Et d'ailleurs, vous le voyez bien ici, dans cette paracha, quand les frères vont décider de condamner leur frère Yosef à mort, c'est pas du tout un problème de jalousie ici, ça n'a rien à voir. Ils le condamnent parce que Yosef a raconté des rêves, il a rapporté des rêves, et dans ses rêves, il semble dire qu'il va être un jour Le roi d'Israël, il est au centre, tout le monde se prosterne, et ça, par contre, ça pose problème. Pourquoi? Parce que les frères savent très bien que Yosef ne peut pas s'approprier cette place de roi d'Israël qui appartient à quelqu'un d'autre, et on rentre ici dans ce qu'on appelle Mored Bemalchut, quelqu'un qui remet en cause les principes même de la royauté, c'est-à-dire qui, au fond, risque de créer une forme de déstructuration totale du système du peuple juif, et pour ça, en effet, c'est pas possible. Mais c'est pas tant à côté, c'est pas tant pour l'histoire de la tunique d'ailleurs. Si vous réfléchissez un instant, regardez, avec l'histoire de la tunique, qu'est-ce qui s'est passé? Yosef est là et puis il a cette tunique. Très bien, de quoi les frères sont jaloux au fond? De la relation qu'il y a avec le père. Et ça, évidemment, la tunique n'en est que l'expression. Et cette jalousie-là, au fond, si on réfléchit, elle est extrêmement positive. De manière générale, elle est bonne parce que quand je jalouse, l'état que génère la possession ou l'expérience que l'autre a, alors en même temps, je me pose la question, est-ce que moi aussi, je peux y accéder? Et si je réfléchis, pardonnez-moi, je peux y accéder, je peux l'atteindre. Et donc, évidemment, cette jalousie est bonne, elle est positive. On le voit, vous savez, de manière très intéressante aussi à propos de Rachel. Vous savez, quand Rachel ne peut pas avoir d'enfant, qu'est-ce que Rachel dit? On dit que Rachel est jalouse de sa sœur. Elle est jalouse de quoi? Elle est jalouse du fait que, eh bien, sa sœur est arrivée à un résultat. C'est quoi ce résultat? C'est d'être celle qui va amener à la vie les tribus d'Israël. Et donc, c'est de ça dont elle est jalouse. Et quand à un moment, elle dit à son mari, eh bien, si moi je peux pas, alors ça va passer à travers...
Oui, mais excusez-moi, je suis grossier, je vous interromps, mais c'est justement un peu la même problématique, non? C'est-à-dire que là aussi, c'est une question d'héritage, en fait. Qui sera le, vous disiez tout à l'heure, le roi d'Israël, peut-être que aussi entre les deux sœurs, c'est qui sera la mère de, bah, comme on dit, matriarche, qui sera la mère du peuple juif, et peut-être avec plus d'implication encore, non? C'est pas un peu la même idée?
Alors, c'est vrai, mais c'est pas du tout de ça. D'ailleurs, vous voyez cette réaction de Jacob, elle est bouleversante, parce que Rachel, elle va chez Jacob, elle lui dit... Donne-moi des enfants et sinon je suis morte. Ça veut dire quoi cette histoire? Et Yaakov, j'ai presque envie de dire, il se match, il dit attends, mais qu'est-ce que tu me veux? Et là, elle dit ok, très bien. Alors dans ce cas-là, ça va passer à travers ma servante. Qu'est-ce qu'elle est en train de dire? Elle dit mais ma raison d'être, c'est entre autres d'amener les tribus d'Israël. Donc je veux absolument réussir à remplir ma mission. Yaakov lui dit mais qu'est-ce que tu veux que j'y fasse si, pour des raisons que j'ignore, il semblerait que Dieu maintenant ait décidé autrement? Alors, on dit, OK, alors ça va passer à travers quelqu'un d'autre, mais ce qu'il faut, c'est que cette mission soit remplie. Il y a quelque chose ici de très, très fort, au fond, c'est que cette jalousie, c'est pas la jalousie de ce que l'autre a, c'est la jalousie de ce que cela apporte. Ici, en l'occurrence, ça apporte quoi? Le fait d'amener les tribus d'Israël au monde. C'est ça qu'elle a envie de remplir, c'est ça qu'elle veut amener. Par contre, rappelons-nous cet enseignement de nos maîtres qui nous disent la chose suivante, qui nous disent que « Akina atava vakavod motimet adamina olam » que par ailleurs, la jalousie peut sortir littéralement l'individu de ce monde. Donc on a ici les deux. Mais de quelle jalousie on parle ici? Eh bien, de quelqu'un qui jalouse ce que l'autre a. Il veut posséder ce que l'autre a. C'est ce qui l'intéresse, c'est la chose en tant que telle. Et donc, lui se focalise sur la chose. Alors que la jalousie positive, justement, c'est quoi? C'est aspirer à ce que va amener cette possession. Et dans ce cas-là, je m'interroge. Je dis, mais je vois quoi en face de moi? Je vois quelqu'un qui a l'air d'être heureux, épanoui, serein. Et ça passe à travers telle et telle chose. Mais j'aspire à quoi? À cet état-là. Et donc, à partir de là, je m'interroge comment moi je peux aussi l'atteindre, comment moi aussi je peux y accéder. Évidemment, pas en m'appropriant ce que l'autre a, mais en faisant une démarche qui va être personnelle. Et c'est en ça où cette jalousie peut justement créer quelque chose qui est une dynamique extrêmement positive. En ce qui concerne Yosef et ses frères, eh bien, on voit bien que le père ne réagit pas, le père ne dit rien. Pourquoi? Parce que Yaakov, au fond, c'est très bien que ce n'est pas parce qu'il va donner une tunique à un de ses fils que brusquement, ça y est, il va y avoir ce conflit. Il comprend bien qu'il y a autre chose qui est en train de se jouer ici dans les relations entre les frères, et c'est ce processus qui va devoir se mettre en place et qui va amener à l'exil d'Égypte, qui va être un élément nécessaire pour pouvoir créer par la suite l'histoire du peuple d'Israël, puisque je vous rappelle que cette fameuse jalousie qui va amener dans un second temps à ce regard sur « mais comment il ose imaginer que ce sera lui le roi d'Israël, c'est pas possible », c'est le début du processus qui amène en Égypte. Mais l'Égypte, on sait que c'est le préambule à la sortie. Or, on ne peut pas sortir d'Égypte si on n'est pas rentré en Égypte, et il faut passer par l'Égypte. On sait que c'est un élément incontournable pour la construction de l'identité juive, qui va par la suite pouvoir nous amener jusqu'au Sinaï, jusqu'au moment où on reçoit la Torah. Donc oui, en effet, la notion de jalousie peut être bouleversante, peut être dramatique, si on se focalise sur l'objet, sur la chose, sur ce que l'on veut s'approprier. Mais dès lors que l'on réfléchit à ce que l'on aimerait atteindre et que l'autre a atteint via cet objet, via cette histoire, alors dans ce cas-là, on réfléchit comment nous aussi pouvons l'atteindre, à l'image de cette Kinat Sofrim, de cette jalousie des maîtres qui, voyant que l'autre a réussi à accéder à un haut niveau, est jaloux de ce niveau et donc va se donner lui aussi les moyens d'y accéder.
Ben ouais, facile, hein. Et je me disais, vous êtes revenu à plusieurs reprises sur l'idée du manteau. Moi, je vais descendre un peu de niveau. Des fois, on voit deux frères qui se battent, mais qu'est-ce qui leur prend ? Des fois, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Il sent vraiment le frère que son père, il préfère l'autre, ou il croit, il a inventé des fois même. Et tout d'un coup, pour une simple histoire de manteau, et c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Mais bon, je ne veux pas redescendre trop de niveau par rapport à toutes les belles choses que vous venez de nous dire. Par contre, je pensais aussi, en vous écoutant, qu'il y a une expression française qui parle de jalousie positive. Et c'est, là aussi, ça vaut ce que je vous dis, évidemment, mais je t'envie. Et là, personne ne voit mal. Ah, je t'envie. Hein. Tout le monde dit, ah, c'est gentil, merci. Parce qu'on n'a pas l'impression qu'il y ait une jalousie et une volonté, une espèce de compétition, quoi. Rav Lemel, merci pour ces paroles très nourrissantes. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne semaine. Pas seulement une bonne soirée, une bonne semaine. Et à la semaine prochaine. Bonsoir à vous.
Shavua Tov.
Et on retrouve à présent Rav Mordechai Bitton qui est à Jérusalem. Bonsoir Rav Mordechai et Shavua Tov. Alors vous voulez intervenir sur quelque chose qui vous a frappé, c'est que dans cette paracha, il y a deux manières pour les juifs de s'autodétruire. Deux façons. Mais il y a aussi deux réponses. Alors on vous écoute.
Et oui mon cher Bernard, Shavua Tov. Alors on va consacrer ce Dvar Torah à un souhait fondamental, c'est que le dernier otage israélien assassiné par les nazis islamistes du Hamas, et bien que son corps nous soit restitué dans les heures, dans les jours qui viennent, et que peut-être même au moment où vous entendrez, bien pendant Shabbat, ça aura déjà eu lieu, et qu'ainsi ben, on clôture au moins ce chapitre-là de cette horrible guerre qui a été infligée à l'État d'Israël, au peuple juif, et que ce dernier otage juif ait droit donc au Kever Israël être enterré dignement en terre d'Israël. Alors, on va parler de Parashat Vayeshev. Parashat Vayeshev, c'est une parashat qui est étonnante parce qu'elle vient après Parashat Vayishlach. En fait, dans Parashat Vayishlach, on a assisté au retour de Yaakov en Eretz Israël, et sur sa route, il rencontre Esav. Et à chaque fois que le peuple juif va revenir de galoute d'exil, il va rencontrer sur sa route les descendants de Esav, de Esaü, sous la forme d'Amalek. Quand on revient de l'exil babylonien, on a Aman, Racha, le descendant d'Amalek, le descendant de Agag, donc de Esav, qui est là sur la route pour tenter d'exterminer le peuple juif. Quand on sort de l'exil égyptien, on a Amalek, donc à nouveau les descendants de Esav, qui sont là pour nous empêcher de rentrer en Eretz Israël après 2000 ans d'exil. Eh bien, on les rencontre à nouveau sous la forme des nazis et la tentative d'extermination de la Shoah, et on surmonte et on revient en Eretz Israël. Trois épisodes et trois choses fondamentales. Donc, en vérité, ce qu'on nous raconte dans Parashat Vayishlach, c'est Maase Avot Tzivan Abanim, c'est-à-dire que la matrice historique et spirituelle qui est en place, c'est que le peuple juif part en exil, il survit à l'exil, c'est Parashat Vayetse, et Parashat Vayishlach, il sort de l'exil, mais quand il veut sortir de l'exil, il rencontre des gens qui tentent de l'exterminer physiquement. Maintenant, dans Parashat Vayeshev, on va nous raconter tout à fait autre chose. On va nous raconter comment finalement, une fois que le peuple juif a vaincu ses ennemis sur le plan physique et spirituel, il peut lui-même s'autodétruire. Il peut lui-même s'autodétruire de deux manières. Le premier, c'est la machloquette, et le deuxième, c'est par la débauche. Le premier, c'est par la marloquette, la dispute, c'est ce qui est marqué dans Parashat Vaïchev. Dans Parashat Vaïchev, on nous raconte que les frères de Yosef et Yosef vont donc se détester, et donc les frères vont le vendre, c'est ce qui est raconté dans cette paracha. À un moment donné, il est rapporté donc, que Yaakov envoie Yosef prendre des nouvelles de ses frères, mais Emek Hevron, de la vallée de Hevron. La vallée de Hevron, c'est la vallée où était enterré la vallée. Alors, Rachid dit, mais Hevron, ce n'est pas une vallée, Hevron, c'est des collines, c'est des montagnes. Et le mot vallée, c'est Emek. Emek, c'est aussi Omek, profondeur. La prophétie qui avait été adressée à Avraham Avinu prévoyait l'exil. Dans la profondeur de cette prophétie, la profondeur du sens de cette prophétie, le peuple juif doit partir en exil. L'exil est en quelque sorte programmé. Mais il y a un mais. Comme toujours, quand il y a une prophétie négative dans la Torah, cet exil il peut prendre plusieurs formes. Et là, ce qui est dit ici, c'est que quand Yaakov a envoyé Yosef, mais Emek Hevron, de la vallée de Hevron, il l'a envoyé en fait sans savoir, en accomplissant ce qui était inscrit dans les profondeurs de la prophétie qui avait été adressée à Avraham. À savoir que le peuple juif devra passer par la station de l'exil, mais il devra y passer d'autant plus qu'il en sera le déclencheur. C'est-à-dire qu'en fait, l'exil peut prendre une forme très atténuée, mais si le peuple juif le déclenche par la marloquette, par la haine gratuite, alors, là, cet exil peut prendre une allure absolument terrible. Et ça, c'est la première chose qui nous est enseignée dans cette paracha. Une fois que Yaakov, Vayeshev Yaakov, il s'est installé, Be'eretz Megure Aviv, sur la terre des pérégrinations de ses pères, et maintenant il est installé. Attention, il y a un danger qui guette le peuple juif, il y a un danger qui guette Yaakov, qui guette ses descendants, qui guette le peuple juif. Maase Avot Sivan Labanim, la matrice historique et spirituelle qui s'est mise en place peut se répéter. Qu'est-ce qui menace le peuple juif? Les marloquettes. La dispute, la haine gratuite. Et ça, c'est très intéressant parce que c'est quelque chose qui nous concerne aujourd'hui. Alors, il faut faire une petite précision ici parce qu'il y a un mot qui est devenu complètement ridicule. Aujourd'hui, on parle toujours de hardou, d'unité, etc. On a des avis différents et c'est dans la nature même des choses qu'on se dispute et qu'on s'affronte autour des conceptions de vie et des chemins de vie et des philosophies complètement différentes. Qu'est-ce qui est dangereux dans Israël? Ce qui est dangereux dans Israël, c'est la pyromanie. C'est d'allumer les incendies. C'est ceux qui, en 1924... vont faire assassiner Yaakov Dayan, diplomate haridi qui négocie avec les Anglais en parallèle de l'agent juif des organisations sionistes. C'est Ben Gurion qui s'énorgueillit du canon qui a coulé l'Altalena, et canon qui a été coulé par une brigade dirigée par Yitzhak Rabin. Et il va y avoir des dizaines de morts dans cet affrontement. C'est ceux qui s'énorgueillissent de l'assassinat de Rabin. C'est ceux qui aujourd'hui appellent à l'assassinat de Netanyahou. C'est les pyromanes. C'est ceux qui vont provoquer la destruction du temple en brûlant les réserves de blé et en n'écoutant pas les sages d'Israël qui recommandaient la négociation avec les Romains. Le pire dans Israël, ce n'est pas que les gens aient des conceptions différentes. C'est la pyromanie. C'est ceux qui allument des incendies et qui provoquent des fractures irréversibles. C'est de ça dont on parle. Les frères de Yosef, les shalom, ils ne pouvaient pas parler avec lui, les shalom. Ils étaient dans la pyromanie. Lui-même, il allait raconter des choses terribles à leur sujet, à leur père. C'est de la pyromanie. C'est ça qu'on est en train de nous dire. Que Yosef et Yehuda aient eu des rôles différents dans l'histoire du peuple juif, ils vont être obligés de se mettre d'accord là-dessus dans Parashat Vaïgash, où là, ils vont s'approcher l'un de l'autre, où là, ils vont enfin comprendre qu'il peut y avoir des chemins de vie et des philosophies différentes, mais qu'enfin, tout ça peut concourir à un but final, finalement voulu par Hachem, avec des chemins et des détours qui sont parfois incompréhensibles. Mais c'est dans la nature même des choses. Mais la pyromanie, c'est-à-dire que les frères n'arrivent plus à parler les shalom avec Yosef, et que Yosef lui-même déballe à son père des choses horribles sur ses frères. Et que finalement, aujourd'hui, dans le peuple juif, Maase Avot Sivan Labanim, la matrice historique se répète. On arrive aujourd'hui à des situations d'affrontement. On est dans la pyromanie avec des appels au meurtre, avec du sang qui risque de couler, que Dieu nous en préserve. Ça, c'est le moteur des exils. C'est le moteur des exils. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est revenu en Eretz Israël, on peut repartir en exil à cause de ça. Ça, c'est une des armes d'autodestruction du peuple juif, malheureusement. La deuxième arme de l'autodestruction, c'est la débauche. Alors Yosef, qui est, le premier juif issu d'une famille juive qui est en Eretz Israël et qui se retrouve jeté sur les routes de l'exil, d'accord ? On va dire de manière plus symptomatique qu'Avraham, Israël et Yaakov. Il se retrouve donc en Égypte, il tombe dans les griffes de la main de la femme de Potiphar, qui va donc lui suggérer d'avoir une relation charnelle. Et au chapitre 39, verset 8, c'est marqué « Vayemahen ». Et le Vayemahen, il est surmonté d'un signe de cantillation, qui est un signe tremblotant. Mais il refuse. En fait, il y a une hésitation. Et finalement, il va arbitrer son hésitation dans le bon sens. Il refuse. C'est donc la raison pour laquelle Youssef est un peu un exemple. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant dans cette attitude? D'abord, le fait qu'il ait hésité. Et d'ailleurs, le Midrash raconte qu'il a hésité. C'est-à-dire que toute sa vie qu'il était, il a été confronté à une hésitation. Et ça, c'est fondamental pour chacun d'entre nous, qu'on ne se mette pas dans des situations qui sont des situations où le feu peut s'allumer. Lui, il se retrouve dans cette situation. Mais qu'est-ce qui va le sauver? C'est là qu'on arrive au point le plus fondamental. La débauche, effectivement, c'est ce qui détruit aujourd'hui les familles, qui détruit des choses. C'est absolument horrible. Mais qu'est-ce qui peut sauver tout ça? L'éducation. Parce que quand le visage de son père va lui apparaître, là, il recule. C'est ce que dit le Midrash. Il y a plusieurs versions dans le Midrash au sujet de l'apparition du visage de son père. Mais grosso modo, ça signifie que son éducation a repris le dessus. Ça veut dire que Yaakov avait réussi son coup. Il savait qu'Yosef allait partir en exil. En exil, il était confronté au risque de l'autodestruction. Ben, il savait qu'il allait, triompher. Il savait qu'il allait triompher. Et son visage apparaît, ça veut dire que l'imprégnation qu'il a reçue dans cette éducation que son père lui a donnée, cette imprégnation, elle l'a sauvé. C'est le chinour, c'est l'éducation qui peut sauver Am Israël. L'éducation. Et il y a deux points sur lesquels on doit insister aujourd'hui. Un, d'abord, on doit insister sur le fait que c'est normal d'avoir des conflits et de ne pas forcément être d'accord. Mais justement, on doit apprendre à vivre avec les gens avec lesquels on n'est pas d'accord. C'est ça qui est fondamental. Apprendre à vivre avec les gens avec lesquels on n'est pas d'accord. C'est fondamental. Donc, donner aux conflits leur vraie identité. Un conflit, c'est l'expression d'une différence. C'est tout. Et apprendre à gérer les conflits, à sortir des conflits, à accepter les conflits et apprendre à vivre ensemble. Et la deuxième chose, se renforcer dans la tsniout, se renforcer dans la pudeur. Parce qu'on vit dans un monde aujourd'hui, notamment le monde occidental, qui est un monde qui reçoit des réponses de l'islam, donc des réponses violentes. Il n'est pas venu les chercher chez nous, ces réponses, sur la structure de la famille, sur la pudeur, sur la relation entre les hommes et les femmes, sur la sexualité. Il n'est pas venu chercher les réponses de la Torah, le monde occidental. Il va chercher des réponses dans le wokisme, mais il reçoit des réponses de l'islam. Et il ne peut pas accepter à nos réponses. C'est bien dommage. Shavua Tov, et à très bientôt.
Rav Mordechai Biton, merci, et Shavua Tov. Et nous sommes en ligne à présent avec Rav Gay. Bonsoir Rav Gay et Shavua Tov.
Bonsoir et Shavua Tov.
Alors vous Rav, vous voyez dans la paracha le passage très connu du puits dans lequel est jeté Youssef, puits dans lequel il y a des scorpions, des serpents, c'est-à-dire des animaux qui sont mortels en plein désert, mais ils ne le touchent pas. Et pour vous, d'après vos maîtres, c'est la configuration, l'allégorie ou le signe de ce qui va se passer en Égypte. Alors pourquoi?
Tout simplement parce que le puits et les scorpions et le serpent sont des symboles. Alors c'est vrai qu'ils ont existé, hein, c'est pas que je dis que ça n'a pas existé, il a effectivement été jeté dans le puits. Effectivement, il y avait des scorpions et des serpents. On imagine bien que dans un désert, lorsqu'il y a de l'humidité au fond du puits, ben évidemment il y a des animaux qui s'y réfugient. Donc ces animaux extrêmement dangereux, ils s'y trouvent. Normalement, Youssef aurait dû mourir tué par ces animaux, mais miraculeusement, ces animaux ne le touchent pas, gardent leur distance, et Youssef est ressorti indemne du puits. Puis après, comme vous le savez, il est vendu par ses frères, et finalement, il arrive en Égypte, dans la maison de Potiphar. Mais ce que je voudrais dire, c'est que ce passage-là, c'est pas simplement un événement, on va dire, secondaire, mais qui est très important. Il rappelle un autre, il est aussi allégorique et métaphorique, et il veut nous apprendre quelque chose de très important. Nous savons que on a tous entendu parler de Freud et de ses théories sur l'inconscient, le subconscient, etc. On a tous appris cela. Il faut savoir qu'au fond de chacun d'entre nous, il y a donc effectivement des forces qui sont très très au fond de nous, dans notre personnalité. Donc Freud y voyait deux éléments négatifs au fond de nous. Le premier, c'est la recherche d'une sexualité, voilà. Et la deuxième, c'est la volonté de prendre la puissance, de prendre la force, de dominer. Et effectivement, le scorpion et le serpent représentent pour le serpent les fantasmes et le scorpion cette volonté donc agressive de vouloir par la force, prendre le pouvoir et être au-dessus des autres. Et lorsque on parle du puits, évidemment, l'image, c'est de parler du subconscient, c'est-à-dire des forces très, très profondément ancrées en nous, mais auxquelles nous n'avons peu accès, et qui sont en nous, on les sent des fois par des rêves, justement. On les sent des fois, on dit des lapsus révélateurs. On a des fois des choses qui sortent et qui nous font peur à nous-mêmes. On se dit, mais c'est qui parlait comme ça? C'est nous-mêmes, simplement, au fond de nous. On refoule certains envies, certains besoins, et on essaye de les maîtriser. Alors, Youssef HaTzadik, c'est justement la personnalité qui va le mieux maîtriser ces forces-là. Il va être dans la Midata Gevura, là, celui qui prend la force dans le sens maîtrise de soi. Il va se dominer et il va être capable justement de prendre toutes ses forces et de les diriger, de les canaliser. Et ainsi, on va le voir résister à Madame Potiphar, on va le voir résister à la civilisation égyptienne, on va le voir résister à l'épreuve du pouvoir et de l'argent, très riche puisqu'il va vendre de la nourriture au monde entier, et donc ça va lui rapporter énormément d'argent. Il va avoir le pouvoir puisqu'il va être le vice-roi d'Égypte, il est dans la civilisation la plus avancée de l'époque. Et Youssef HaTzadik, face à tout cela, il met les scorpions et les serpents à distance, il impose cette distance, évidemment sans faire d'effort, c'est parce que c'est sa stature spirituelle qui lui permet de les éloigner. Et bien, tout cela préfigure du Yosef qui va vivre pendant toutes ces années éloigné de son père et de ses frères, et qui va garder très fort, très très fort et d'une façon très fidèle, ces qualités-là dont je viens de parler, cette maîtrise de soi, cette capacité de sublimer, de canaliser, d'orienter. Et on veut justement nous le présenter, Youssef, comme un exemple de la résistance face à l'assimilation. Un jeune homme vendu par ses frères, donc rejeté de chez lui, qui a toutes les raisons, parce qu'il est beau, parce qu'il est intelligent, parce qu'il est fort, de se laisser aller et d'écouter un petit peu, de s'écouter et de se laisser aller à l'ambiance égyptienne ou à la séduction de ce monde égyptien qui est absolument incroyable. Eh bien, cet homme-là qui résiste envers et contre tout, c'est le juif en exil face à toutes sortes d'épreuves et qui sait faire reculer le scorpion et le serpent. Je vous rappelle que le serpent, ça vient du mot nachash, donc nachash en hébreu, ça veut dire le nachesh. Le nachesh, ça veut dire deviner. Et d'ailleurs, Youssef dit-il lui-même, à propos de la coupe qu'on appelle le gavia, nachesh v'nachesh ishasher kamonim. Je suis un divinateur, je suis quelqu'un qui est un devin, j'utilisais ma coupe pour deviner. Donc nachesh, c'est prendre, avoir une imagination qui nous permet de connaître l'avenir, mais aussi le fantasme. Et lui, il est capable justement de maîtriser tout cela. Et donc Youssef est pour nous un exemple de résistance dans l'épreuve et aussi en Égypte. Et pour bien le montrer, on nous dit que Youssef est capable de capter la présence divine, même si elle est cachée, de la voir, de la ressentir, et il va justement résister à l'épreuve de Madame Potiphar. Grâce aussi à l'image de son père, donc il pense à son père et à ce qu'il a représenté pour lui et ce qu'il représente toujours pour lui, et c'est ce qui le préserve de l'assimilation, de l'oubli et de la faute avec Madame Potiphar. Voilà un petit peu ce que je voulais partager avec vous ce Motsaï Shabbat en prévision de notre futur Parasha Vayeshev, et de nous dire à tous Shabbat Tov.
Shabbat Tov, Rav Gueh. Bonsoir, à la semaine prochaine.
Bonsoir. À la semaine prochaine. Au revoir.
Voilà, cette émission est à présent terminée. Je voudrais signaler que c'est l'opération de nos amis de Mazon ce week-end. C'est leur allodon. Donc, aidez-les. Moi, je les recommande totalement. C'est des gens magnifiques, avec Eric Bendrien à sa direction. Vous les aidez, eux-mêmes aident les plus pauvres. Donc, en les aidant, on aide les autres. Et voilà, ils font leur propre campagne allodon. C'est ce week-end. C'est ce soir. Vous pouvez le faire tout de suite. Déjà, vous allez sur allodon, vous allez sur les sites de Mazon et vous les soutenez. Aujourd'hui, ou demain, ou lundi. Excellente soirée à tous et Shavua Tov.